Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, l'émission double jeu disponible à l'écoute dès 18h sur franceinter.fr et en podcast en avant-première puisque ça passe plus tard à l'antenne de 22h à minuit. Ce soir, une émission qui a du corps avec Kamel Wally, le chorégraphe du Roi Soleil, des 10 commandements, le showman des divas Maria Carré et Céline Dion, signe l'Oiseau Paradis, la nouvelle revue du Paradis Latin à Paris, prévue pour mai prochain. Vous sortez des répétitions et les danseurs que j'ai pu voir ont déjà un incroyable talent. Kamel Wally, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Karel Prugnot met en scène une histoire de jumelles Léonie et Noélie. Imaginez deux filles de 16 ans sur un toit face à une ville qu'elles ont incendiée. Deux filles sur un toi, ça ne vous effraie pas, Karel Prugnot, vous avez été acrobate. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis on a rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo, la chronique, direction Montreuil pour un festival de musique ce soir. Et dans le Énervé la suite, le grand remplacement. Info, intox.
Bah, disons que j'essaie de vous remplacer désespérément, mais je n'y arrive pas, donc dans mon cas, c'est raté, disons. En tout cas, oui, c'est la question qu'on va se poser. On va essayer d'y répondre vraiment calmement, sans polémique, si on y arrive, bien sûr. Donc, il y aura, pour en parler, Jean-Paul Gourevitch. Il vient de sortir un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Le Grand Remplacement, Réalité ou Intox. Donc, lui, évidemment, est spécialiste de ce sujet. Il y aura également Caroline Valentin, qui est essayiste et par ailleurs journaliste. Michel Agier, anthropologue, on lui doit L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité. Et enfin, Erwan Lecoeur, politologue spécialiste de l'extrême droite.
Eh bien, ça fera du monde. Le Énervé, ah, c'est oui. Parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Double scène ce soir avec vous deux, Kamel Wally au Paradis Latin, Karel Prugnot en tournée avec Loéni et Noélie, une pièce sur la gémédité que j'ai pu voir cette année au Festival d'Avignon. Vous vous connaissez ?
On s'est rencontrés il y a 5 minutes.
Il y a 5 minutes.
Voilà. On a l'impression déjà de se connaître depuis très longtemps.
Mais exactement.
Vous êtes en répétition depuis début mars au Paradis Latin, le lieu mythique parisien. La revue, vous connaissez l'exercice. Vous aviez déjà signé il y a 20 ans French Cancan aux Folies Bergères.
Ouais, ouais. C'est, je fête mon anniversaire.
Exactement, 20 ans plus tard, on remet la revue. La revue, c'est quand même pas évident de trouver une forme contemporaine. Vous avez déjà choisi la meneuse, c'est qui ?
Iris Mittenard,
qui est
entre autres notre Miss France et Miss Univers. Donc,
danseuse.
Plutôt danseuse, chanteuse. On travaille la comédie. Et c'est surtout une travailleuse. Et ça, c'est ce qui me séduit le plus. Moi, j'ai besoin d'une muse qui m'inspire et qui est très volontaire et qui a toujours envie de se dépasser. Et je crois avoir trouvé la bonne personne.
La revue, ça veut dire qu'il y aura des plumes, des strass, comme d'habitude, ou vous avez fait un pas de côté ?
On va dire que c'est une revue un peu particulière, un peu, j'aurais envie de dire, une revue ancrée dans son temps. Même si moi, je suis assez fan des revues traditionnelles, j'aime ça aussi. Donc il y aura un peu de tout, mais c'est vrai que c'est quand même une revue, on va dire, plutôt un peu plus moderne que ce qu'on peut, dans notre inconscient, imaginer.
Vous avez vu la revue, parce qu'il y a encore une revue qui tourne en ce moment.
Ouais, toujours.
Ça dure combien de temps une revue au Paradis Latin ?
Bah, une revue au Paradis Latin, c'est donc un dîner-spectacle.
Oui, oui.
C'est donc après le dîner.
Non, mais pas pour la soirée.
La
programmation.
Celle qui est actuellement, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là.
Ouais, c'est ça qui
est mais moi, j'aimerais bien que celle que je vais mettre en scène dure très peu de temps pour partir sur une autre très vite.
Vous avez été danseuse aussi, Karel Prugnot.
Alors là, danseuse, c'est un grand mot, mais dans pas mal de spectacles, effectivement, j'étais amenée à bouger tout au moins.
Acrobate au départ.
Effectivement, surtout, je me suis fait beaucoup de judo, en fait. J'étais 3e au championnat de France de judo. Donc, effectivement, mais parfois, dans pas mal de spectacles, effectivement, un peu acrobate également.
Mais acrobate, dans quels agrès, en fait?
Alors là, acrobate au sol. Vraiment. Donc, des sauts périlleux, des souplesses avant, souplesses arrière, des grands écarts. Donc, voilà. Et donc, après,
est-ce que le judo vous a aidé, justement?
Mais bien entendu.
Parce qu'il y a des chutes.
Il y a un spectacle où je fais un combat de catch à poil.
Ouais, moi, j'adore. À poil?
Quoi?
Carrément. Avec Beckett.
Ça m'a fait cette histoire.
Et oui, un spectacle de Mauricio Celedón du Théâtre del Silencio. C'est du spectacle de rue. Et c'est un spectacle très engagé, très dans le corps, très visuel. Et effectivement, les acteurs, les danseurs, enfin, des apprentis danseurs, parce qu'il y a la danse et le mouvement et surtout l'intention du mouvement. Et effectivement, on est mis à l'épreuve. Et là, effectivement, il y a un moment donné, avec Samuel Beckett, il y a un texte qui s'appelle Not I, qui veut dire ouais. Pas moi. C'est qu'une bouche qui parle. Et donc, effectivement, il y a un grand rideau avec juste une énorme bouche en plastique que j'ai dans la bouche. Et maintenant, on enlève le rideau. Et je suis à poil, sans cheveux, sans rien. Et je terrasse Beckett.
C'était
ça, c'est assez jubilatoire. Dans du sable, dans la rue.
Voilà. Mais aujourd'hui, non, mais ça s'est passé quand? Parce qu'aujourd'hui, voilà. J'arrive pas à penser que
c'était possible.
C'était
cette année, là. On l'a joué au Festival de Santiago du Chili. On l'a joué dans le Festival d'Aurillac, à Chalon. On l'a joué un peu partout. C'est vraiment,
après, malheureusement, les auditeurs ne voient pas le physique que vous avez. Hein. Les physiques, genre. Moi, je voudrais que toutes mes danseuses soient comme vous.
Oh là là.
Vous avez fait ça déjà danser nu, vous, Kamel Wally?
Ah non. Je fais danser nu les autres, mais pas moi, non.
Jamais.
Trop pudique pour ça.
On vous l'a jamais proposé. On vous l'a jamais demandé quand vous avez été danseur à un moment donné.
Non, mais en plus, je dis ça, je crois que je dis n'importe quoi parce que pas nu, mais genre avec ce qu'on appelle une gaine là.
Oui, oui.
Ouais, j'ai déjà fait
dans quel
fois.
Cadre
Une fois pour Saint-Laurent, pour un truc pour Saint-Laurent, pour la marque pour Yves Saint-Laurent, et une fois pour un clip, je dirais pas lequel.
Pour que les gens n'aillent pas chercher dans lequel on puisse vous trouver. Bon, on vous a demandé des sons à chacun et à chacune pour faire plus amplement connaissance. Ça commence par de la télé pour vous, Kamel Wally. C'est toute la jeunesse de Virginie Rouzic que vous êtes en train de faire écouter. Je la vois qui se lève dans le studio là-bas. Qu'est-ce qu'on écoute et pour quelle raison? On le sait.
Ouais, c'est le générique de Champs-Elysées. Ouais. C'est une émission qui a été présentée par Michel Drucker. Et je trouve déjà que c'est le plus beau générique de télé qu'on a eu. Et c'est aussi le générique qui m'a donné envie de danser.
C'est
le ballet de Reda,
ouais.
Qui m'a donné vraiment envie de faire ce métier. J'avais déjà commencé
à
danser.
Oui, vous déjà commencé. Ouais.
Mais, et en fait, j'étais carrément fan de cette troupe de Reda et tout ça. Et puis un jour, j'ai été les voir. Et puis il m'a dit, viens bosser un peu avec nous. Et puis dès le premier cours, il m'a dit, tu vas bosser avec nous. Et ça, c'était plutôt cool.
Reda, qui était vraiment le chorégraphe de tous les shows télévisés à l'époque.
Mais carrément, et pas que de télé. Il a fait plein de compagnies. Il a fait tous les festivals. Il fait des chorégraphies pour des opéras dans le monde entier. Il fait plein de choses différentes. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. Quand je vois ce générique occasionnellement, c'est toujours avec beaucoup d'émotion.
C'est un générique qui vous dit aussi quelque chose, Karel
Pugno ? Oui, j'étais toute petite et ça rappelle de bons souvenirs, c'est émouvant.
Ça l'était Paris à l'honneur.
Ouais, c'était là où on voyait arriver des voitures, les gens sortaient, c'est celui-ci.
Ouais, et c'était en fait, il y avait des danseurs qui faisaient des chorégraphies dans devant les monuments de Paris.
D'accord. Est-ce que ça peut inspirer quelque chose pour le paradis latin? C'est-à-dire les danseurs qui ne soient pas que sur la scène, mais qui puissent être un peu ailleurs, pour vous, Kamel Wally,
En fait, oui. Ça pourrait être une source d'inspiration, même si ce n'était pas forcément lié. Mais c'est vrai que moi, dans les tableaux que je prépare pour le paradis, il y a des moments où il y a des choses interactives avec de la vidéo qui nous emmènent et qui nous embarquent dans des univers un peu différents, et voire dans des contrées différentes, même voire dans l'espace peut-être.
Ça promet. Un double son pour vous, Karel Pugno. Le montage est signé Juliette Medevielle et Marion Lelay. Oui, alors, qu'est-ce qu'on entend, ce double son? C'est quoi,
eh bien,
au départ?
On entend au départ donc, des bruits d'aquarium. Mmh. Parce que mon père, après avoir été batteur, il a tenu d'un seul coup une espèce d'entreprise d'aquariophilie. Donc remplie d'aquariums. Donc c'était des espèces plein de mètres comme ça, des grandes longueurs remplies d'aquariums qui vont jusqu'au plafond. Et je passais mes dimanches à ramasser les poissons morts à l'épuisette. Et donc, du coup, effectivement, il y avait à la fois une espèce d'univers très étrange. Que c'était ces poissons qui venaient d'un peu partout, du monde entier. Il y a même des crocodiles, des petits requins, qui faisaient de tout en fait.
Absolument.
Et en même temps, du coup, ça renvoyait aussi à une solitude, à un espace-temps complètement hors du monde, que je trouvais assez aussi fascinant qu'effrayant. Donc ça a bercé une partie de mon enfance. Et après, je me suis retrouvée dans un tout petit village où effectivement, la grande route, pour moi, c'était cette mobylette qui arrivait de très loin, qui traversait cette nationale au milieu de ce village qui s'appelle Vatan. Donc un lieu où on n'a pas spécialement envie de retourner.
Le village s'appelait Vatan.
Vatan, t'en reviendras, il y a marqué sur la pancarte.
Et les habitants de Vatan, ils s'appellent comment?
Les Vatanais.
Ah oui, quand même. Sinon, on a disparu. Moi, j'aurais cru.
Et dans cette petite mobylette qui, pour moi, était leur rêve. D'ailleurs, j'ai voulu avoir une petite mobylette. Mes parents avaient très, très peu d'argent à l'époque. J'en ai acheté une d'occasion. Malheureusement, on n'a pas réussi à la faire marcher. Donc, j'ai toujours pas mon permis de conduire, rien. Mais cette mobylette, pour moi, sur cette route, ramenait à l'ailleurs, au voyage, ce que j'ai fait après, dans le métier que je fais maintenant.
Quand on vit son enfance dans un village qui s'appelle Vatan, mais c'est une bénédiction pour les psychanalystes.
C'est quand même
impossible. Un souvenir pour vous, Kamel Wally. C'est ça. Quel tube ? Et bien sûr, c'est associé à vous.
Ouais, c'est les 10 commandements. C'est la première chorégraphie que je fais pour un gros spectacle
ouais.
Qui a été, qui est l'un des plus gros succès français en comédie musicale. Et puis quelle aventure humaine, c'est incroyable. On a vécu des choses complètement folles. C'était assez drôle parce que tous ceux qui ont bossé sur ce projet-là n'avaient jamais fait de comédie musicale de sa vie.
Vous ni les autres.
Ni moi ni les autres. Et puis alors moi, je dirais que j'ai encore allé plus loin, c'est que moi, je n'avais même jamais vu de comédie musicale de ma vie. Donc j'ai été voir ma première comédie musicale après avoir fait les 10 commandements. Mais ouais, et puis c'était. Ouais, c'est
ça, ça a signé véritablement le style Kamel Wally. Vous vous souvenez d'un tableau particulier qui vous avait demandé beaucoup de travail pour cette mise en scène chorégraphique ?
Alors, moi, à la base, quand Élie Chouaraki et Pascal Obispo m'ont contacté pour le faire, je devais faire 4 tableaux. Pas plus, pas moins, sur un spectacle de 2h30. Et en fait, très vite, moi, je travaille assez rapidement. Je leur montre les tableaux. Ils me font, ok, on est au Palais des Sports, montre-nous ce que tu as fait. Et puis, je me rappelle, lui et Élie et Pascal ont pris le livret. Je dis, finalement, on veut de la chorégraphie. Là. Et donc, j'avais normalement à peu près 15 minutes de chorégraphie. Et de 15 minutes, je suis passé à 2h15. Donc, je pense que tous les tableaux m'ont demandé beaucoup de travail.
je peux imaginer. Et enfin, du jazz pour vous, Karel Prugno. Jazz pour vous, c'est ce qu'on écoutait à Vatan ?
Eh bien, c'est ce que j'ai écouté avec mon prof de lycée, effectivement, en option théâtre. Et en fait, il nous a fait danser comme des fous sur du jazz, notamment sur Duke Ellington. Pas sur cette chanson-là, mais sur la musique de Duke Ellington. Et c'était ma révélation, parce que d'un seul coup, je trouvais un espace de liberté à travers la danse, à travers le mouvement, à travers le théâtre. Et après, étonnamment, Duke Ellington m'a suivi. J'ai mis en scène un spectacle sur un texte d'Edith Yet de Clermont-Tonnerre, et qui s'appelait La femme assise qui regarde autour. Et on s'est inspiré d'un livre de photographie qui s'appelle La Casa Susana, où c'était des femmes qui étaient des hommes, en fait, qui se travestissaient dans une petite maison à la frontière de New York, hors de tout, dans la campagne, et des hommes qui affectionnaient l'état d'être femme, donc qui n'étaient pas spécialement homosexuels, mais qui s'habillaient en femme et qui étaient dans des actions très très quotidiennes, passer le ménage, arroser les plantes, ils étaient avec des petits bigoudis, et puis une espèce d'espalier qui est un peu un début du rassemblement aussi du travestissement, ce qui m'a beaucoup suivi après, parce que j'adore travailler là-dessus. Et puis après, j'ai aussi, donc c'est assez marrant, joué dans un spectacle sur un texte de Kofi Kaole, au Théâtre de la Tempête, qui s'appelle Mysterioso 119, où je faisais une tueuse.
Kamel Wally, je pense qu'il faut deux meneuses de revue pour le paradis latin.
Mais oui, il y a un côté très burlesque, non ?
J'adore, effectivement, tout à fait. Et d'ailleurs, on va faire, vous parlez de revue, et nous, on va faire, c'est assez différent, on va faire à la scène nationale d'Aubusson une espèce de cabaret un peu décadent avec, effectivement, toute l'idée de la revue, mais vraiment à travers le travestissement. Donc avec le cabaret, ça se passe dans une rivière, donc c'est une espèce d'énorme table, et c'est Monsieur K du cabaret de Madame Arthur, au Divan du Monde, Otomo, une créature de 2 mètres de haut, mais sur talons aiguilles, c'est hallucinant. Il y a aussi Lala Morte, qui a beaucoup travaillé avec le cirque électrique, donc avec des plumes, et donc c'est un peu ça, mais de façon complètement décadente. Un espèce de duo de chiennes avec des petites culottes fuck me.
Elles vont adorer les femmes.
C'est la scène, donc, vous êtes la féministe. La scène nationale d'Aubusson.
Mais exactement. C'est très intéressant la façon dont tu parlais du féminisme, parce que moi, je me considère comme une des féministes, au contraire, contemporaine. Dans le sens où c'est très dur d'assumer une extra-féminité, c'est-à-dire que dans le sens où on est à l'état de femelle, et puis après on décide d'un chemin, enfin celui qu'on veut. Et pour moi, des attributs de la féminité, c'est très très dur. Quand tu es littéralement comédienne, tu vas littéralement te faire mettre en scène. Quand tu es metteur en scène, quand tu vas dans un bureau et tu vas voir un directeur de théâtre ou une directrice, et que tu arrives avec des talons aiguilles ou du rouge à lèvres, c'est très dur de convaincre la personne qui est en face de toi et de lui dire que tu n'as pas 0 de QI. Donc ça, c'est assez complexe. Donc du coup, c'est à force de travail. C'est, pour moi, c'est un vrai militantisme, un véritable engagement d'être libre. Après, tu peux très bien te couper les cheveux, mais j'ai pas envie de m'habiller, excusez-moi, Ariane Mouchkine, mais de me couper les cheveux ou de...
De ressembler à une bonne sœur,
de m'habiller en dommage.
Un garçon pour prouver que je peux penser. Et ça, je trouve qu'au contraire, pour moi, le féminisme, c'est être libre d'être tel qu'on veut et tel qu'on a envie d'être. Et si on veut se balader sur talons aiguilles avec du rouge à lèvres, des robes moulantes,
mais et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que vous faites.
Mais honnêtement, ça fait aussi du bien d'entendre ce discours-là et tout ce qui se passe.
Votre père était batteur au départ ?
Oui,
Dans quel registre?
Eh bien, lui, il a travaillé, il a fait une tournée avec Vander, Magma, donc double batteur, ah, et sinon avec aussi Artzoid. Donc voilà, c'est vraiment...
Avant de passer du côté des aquariums.
Avant, voilà.
Quel programme.
On vous... Et vous nagiez comme ça, nu dans les aquariums?
Eh bien, ceci dit, moi non, mais j'ai mis en scène un spectacle au cirque électrique autour de l'imaginaire érotique japonais, et il y avait une contorsionniste qui faisait tout un numéro de contorsion avec des tentacules de poulpe qui glissaient à la fin dans un aquarium, et là, effectivement, ça giclait bien.
D'accord. Ça passe à quelle heure l'émission?
Les belles sueurs, elles sont chantées et transpirées par Malik Judy dans le NRV. Il sera au festival Wheel of Green à Vincennes le 1er juin prochain.
Rendez-vous.
Alors mesdemoiselles, les filles, vous avez compris comment ça va se passer pour le final du spectacle d'Elikaku.
Le nouveau rendez-vous.
Bon, la blonde, tu arrives, chelac, tu te positionnes, t'as compris? Sandrine, je veux du glamour, t'as compris le glamour? Tu mets la main comme ça, le bras cassé et tu avances.
Laurent Goumard.
La troisième, Lolo. Tu arrives, elles sont là, tu arrives. Je là, tu t'éclates. Voilà, un peu plus haut la jambe si tu peux, hein. Bon.
Sur France Inter.
Ça vous rappelle quelque chose, ça, Camille Rowley, les spectacles d'Elikaku dans son sketch ici du chorégraphe.
C'est vous? Mais oui, c'était carrément moi le chorégraphe d'ailleurs. Ouais. C'était moi qui faisais passer les auditions déjà à l'époque. Ouais, c'est un super, super souvenir. Vraiment, c'est un comédien, voilà, hors pair, un humoriste vraiment, mais qui mettait du corps, qui était. Puis moi, ce qui me
vous avez dansé pour lui.
J'ai dansé pour lui, ouais. Je jouais même dans les sketchs, je jouais le rôle du chorégraphe. Et c'était drôle, hein. Et puis voilà, super mec, super aventure. Et puis son humour, qui est un humour finalement très. Très ancré dans sa culture, ouais. Qui finalement a réussi à toucher tout le monde. Mais c'est parce qu'il y avait aussi du corps, il y avait aussi, il a ce truc de, moi ce qui séduit par exemple chez les acteurs américains, c'est qu'il y a beaucoup de corps. Et ce que je retrouve pas forcément ici, en France. Et lui, il avait tout ça. Et je, voilà, moi, je,
comment vous étiez rencontrés tous les deux, Kamel Wally et Likaku?
Alors, tout simplement, c'est que lui, son rêve, ça aurait été d'être danseur. Donc, il était,
raté.
En fait, ouais, mais.
Quoique, il avait quand même une physicalité très, très impressionnante.
Ouais, ouais, et puis il adorait la danse, il adorait vraiment ça. Et puis, donc, sur un plateau télé, il me fait, un jour, il me dit, ah, mais moi, j'adorerais être vous, tu vois, c'est marrant. Et puis après, c'est comme ça. Je dis, bah, allez, on s'échange les téléphones et on va bosser ensemble. Et ça s'est fait comme ça.
Aujourd'hui, vous êtes au Paradis Latin, une institution parisienne. Vous signez la nouvelle revue L'Oiseau Paradis. Ça va commencer début mai. Je suis passé en répétition tout à l'heure. J'ai vu que vous aviez déjà quelques idées. Vous avez les grandes lignes, en tout cas, l'architecture de la manifestation.
Ah ben là, j'ai même carrément tout.
Tout. Maintenant, tout
après,
est écrit.
Tout est écrit. Après, il faut la mettre en place, répéter avec les artistes.
Et dans les répétitions, puis... manifestement, ça change. Hein, vous cherchez des choses pendant que ça répète.
Ouais, c'est une vraie création. Donc du coup, moi, ça bouge. Je fais. Après, il y a des choses que sur le papier j'aimais bien, puis finalement, quand je le vois en réel, j'aime moins. Puis il y a des choses que je développe un peu plus que d'autres. Non, c'est une vraie création. Et ça, c'est les moments qui sont les plus extraordinaires de notre métier.
Quel type de danseur vous avez choisi, vous avez casté?
Alors, la particularité de ce cabaret, c'est que, justement, comparativement aux autres, où c'est très stéréotypé, les filles font toutes 1m75, elles sont toutes plutôt d'ethnie caucasienne. Là, moi, j'ai des gens qui viennent de toutes les origines, mais aussi en danse. J'ai des gens qui viennent bien sûr de la revue, mais surtout de la danse contemporaine,
de la danse
hip-hop. J'ai de tout pour les garçons et pour les filles. Et c'est une rencontre. Ça peut être parfois compliqué de mettre tout le monde ensemble, parce qu'à un moment donné, on raconte quand même tous la même histoire. Et en même temps, c'est hyper riche. Donc voilà, moi, je m'éclate.
Des numéros nus ou pas dans un cabaret?
Bien sûr.
Vous allez dire, non, mais c'est pour savoir,
mais
bien
sûr,
ça fait partie des codes.
Ça fait partie des codes, puis en plus, honnêtement, moi, j'aime bien.
Garçons et filles?
Garçons et filles.
Ah ouais.
Ça va être aussi une particularité.
Ah oui, ça, c'est une particularité, parce que généralement, non.
Ouais. Non, les filles, les garçons vont être aussi sexy que les filles.
Vous
avez vu le casting.
J'ai vu le casting.
Il mérite d'être
un peu... J'ai même envoyé des photos à ma collaboratrice pendant les répétitions.
D'accord, elle a choisi lequel alors?
Je ne sais pas, on va lui demander où laquelle. Vous-même, vous avez déjà dansé dans ce cadre? Vous avez déjà dansé dans des cabarets, des revues?
Non, moi, je n'ai jamais fait de revue. Non.
Quand vous avez commencé?
Moi, j'ai fait plein de trucs différents.
Bah ouais, mais pas ce cadre-là, ouais.
Non, pas de revue.
Quand vous avez commencé, quel danseur vous vouliez être, vous, Kamel Wally? Quel type de danseur, en fait?
Mais en fait, je voulais surtout pas être danseur. Je voulais être chorégraphe depuis tout petit.
Ah ouais?
Dès le premier cours, en sortant du cours, j'ai dit à mes sœurs, en fait, moi, c'est ce que je vais faire plus tard, mais je vais apprendre les pas. Je vais apprendre les pas à mon professeur, en fait. Et donc, je savais pas que ça s'appelait chorégraphe, mais j'ai toujours voulu être chorégraphe et metteur en scène.
Ça a été bien vu dans votre famille que vous choisissiez ce destin de danseur, famille nombreuse, vous étiez combien? Vous étiez très nombreux, c'est ça?
On était 12.
Ouais.
On est 12.
Vous êtes toujours 12,
ouais. On est 11. Et au début, mon père voulait pas que je fasse de la danse. Donc, complot familial, le girl's power. Ma mère décide de lui dire, ok, il veut pas que tu fasses de la danse, on va dire que tu fais pas de la danse. Et je te paierai tes cours de danse. Et tous mes grands frères, parce que moi je suis l'avant-dernier d'une fratrie de 12 enfants, ça a été un complot familial. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première télé, et j'ai dit à mon père, regarde la télé ce soir. Et donc il a allumé TF1, et j'étais à la télé, j'avais à peine 17 ans. Et puis en rentrant, il m'a dit, écoute, la prochaine fois, tu me le dis que je le dise à mes amis qui regardent aussi. Donc, il était très fier.
Vous étiez derrière quel chanteur ou dans quel ballet à ce moment-là?
Je travaillais avec Reda déjà.
Déjà avec Reda, ouais. Ouais.
J'étais plus jeune, je pense.
Et vous, vos parents ont compris facilement que vous choisiriez de faire du catch nu dans du sable?
Ils ne sont jamais venus me voir.
C'est vrai? Jamais, jamais, jamais.
Non.
Jamais.
Donc, du coup, ils ne m'ont pas vu, mais je pense que, effectivement, au départ, c'est toujours pas évident. Il y a toujours une peur, surtout une appréhension de se dire est-ce que ma fille va réussir dans ce métier-là? Parce que c'est quand même un peu incertain. Donc, j'ai d'abord commencé par faire des études de droit. Et puis après, effectivement, j'ai pris mon chemin tout seul. Mais ils se sont jamais positionnés là-dessus. Ils me suivent, ils sont présents, ils me regardent par Internet, parce qu'en fait, ils sortent peu de ce petit village. Donc, ils me suivent de façon fictionnelle, on va dire. Après, je suis pas sûre qu'ils aient vu tous ces petits détails sympathiques.
Non, ça, mais vous, quand vous arrivez dans ce village, le regard des autres, c'est quoi?
Eh bien, effectivement, c'est
assez... Parce qu'ils m'ont vu grandir, en fait.
Mais ils m'ont vu grandir, effectivement.
Mais évoluer un peu différemment que des autres qui vivent encore dans ce village, non?
Mais tout à fait. Mais ça, c'est marrant, parce que, par exemple, la fleuriste, où je me rappelle quand il y a eu la naissance de mon tout petit frère, et on allait acheter des toutes petites, des petits personnages en faïence pour offrir à ma mère, qui nous a vus aussi toutes petites, toujours très polies. On écoutait les gens, les petits papis, les petites mamies, et on était seuls avec ma mère. Du coup, bah, d'un seul coup...
Quand elle voit arriver une créature félinienne...
Mais il faut faire un truc dans le village.
À la campagne, avec des talons de 12
Ben c'est marrant, il y avait la pharmacienne, les sabourins, où j'avais gardé un des petits garçons de leur fils, qui me dit, oh, mais c'est super, qui aime le théâtre, qui tient la bibliothèque. Il me dit, ah, oh, mais c'est génial. Elle me dit, donc vous avez grandi, c'est bien. Donc c'est marrant, c'est rigolo. Après, ils savent pas le détail non plus.
Je peux imaginer. Kamel Wally, vous êtes formé ici en France, mais aussi aux États-Unis. Pour quelles raisons vous aviez choisi de partir là-bas pour vous former? Et auprès de qui d'ailleurs?
Moi, je suis parti à Los Angeles pour continuer ma formation. Et en fait, très, très vite, on m'a fait bosser. Donc, ouais, j'ai travaillé très, très vite. Et puis, le jour où j'ai passé une audition, parce qu'en fait, ça marche... C'est le mode de fonctionnement aux États-Unis et en France n'est vraiment pas le même.
Ouais,
en France, un danseur peut aller auditionner, comme j'ai pu le faire pour Béjart, pour aller faire une télé, pour un clip vidéo, pour une pub. On peut le faire où tout est ouvert, il n'y a rien de privé. Aux États-Unis, il existe 3-4 grosses agences. Et puis, il faut déjà rentrer dans l'agence, ce qui est extrêmement difficile. Et c'est eux qui vous envoie sur des auditions privées. Donc, il y a cette audition qui est une fois tous les 6 mois. Il y a des gens qui viennent du monde entier, notamment bon, la plupart des Américains aussi. Et je passe l'audition et là, je suis recruté. Il me dit, bon, alors, on va vous payer votre visa, nanana, tatati, tatata, on va tout vous faire. Et donc, ça, c'était au bout de presque un an. Et là, j'étais avec pas mal de potes français. Je rentre, ils décident de faire une fête pour moi. Je m'en rappellerai toujours. Je fais la fête. À un moment donné, je monte. Je redescends 5 minutes plus tard et je dis, je rentre à Paris demain. Parce qu'ici, c'est pas ma vie. Et je veux pas rester là. Et je suis rentré. Voilà. Parce que je savais que Los Angeles, j'aimais pas vraiment Los Angeles. Et puis, je trouvais pas qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant là-bas qu'ici. Puis mes amis, ma famille me manquait. Et puis, en plus, je suis un fou amoureux de Paris. Donc, j'ai pas envie de vivre ailleurs qu'à Paris.
C'est fait ici. Juste une question par rapport au style Kamel Wally. Comment vous pourriez le définir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a de particulier pour qu'on vienne vous chercher un peu partout, auprès de grands shows, une revue aujourd'hui? Mais il y a eu des collaborations, je parlais tout à l'heure avec Maria Carré, avec Céline Dion. Qu'est-ce qui fait le style véritablement Kamel Wally? Est-ce qu'il y a eu des références pour vous?
Bah, alors déjà, c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir passer d'une artiste internationale ou française à une émission de télé, à une comédie musicale, à un opéra que je vais pouvoir mettre en scène ou l'inauguration d'un stade. Et c'est ce que j'aime, c'est justement être dans des univers complètement différents, des fois des gros trucs, des fois des trucs plus intimistes.
Mais il y a quand même quelque chose qui est particulier.
Alors, moi, ma particularité, déjà, je la connais, c'est que... Déjà, mon bagage, c'est, je viens de la Courneuve, de Saint-Denis, je viens de la danse hip-hop, et après j'ai fait plein d'autres styles de danse, et j'ai besoin d'avoir aussi ces gens-là avec moi, mais aussi d'amener ces gens-là à une autre rencontre que moi j'ai eu la chance de connaître dans ma vie, c'est la danse contemporaine, la danse moderne, la danse classique, c'est en fait d'avoir une diversité. Qu'elle soit, moi ça me gêne pas de mettre une fille d'1m60 avec un mec d'1m80 ou vice versa. Ça me gêne pas d'avoir des gens, un danseur hip hop qui fait un duo avec une danseuse classique ou voilà.
Et de rompre avec l'unité du ballet qu'on peut voir. Ouais.
Voilà. Et puis alors moi je pense que ce qui fait vraiment ma particularité, c'est qu'en réalité, c'est très bizarre de dire ça, mais le mouvement je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter, le visuel global. C'est ça qui m'intéresse.
Ouais, de créer une image, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la pieuvre, par exemple.
Ouais, créer, puis de me servir de l'ADN de la marque. Par exemple, je ne monte pas une revue au Paradis Latin comme je la montrais dans un autre cabaret parisien ou à Los Angeles ou à Las Vegas ou ce qu'on veut. Donc moi, l'histoire, c'est ce qui m'interpelle le plus. J'adore faire des recherches, j'adore ça.
Vous avez commencé par le hip-hop?
Ouais.
Vous étiez plutôt seul? Plutôt couple? Plutôt quoi?
Plutôt un peu tout et surtout aujourd'hui plutôt rien du tout.
Vous avez complètement arrêté, complètement abandonné.
Je montre en tout cas, je sais expliquer ce que je veux maintenant.
Juste une dernière question. Je sais que vous aviez réalisé un clip il y a quelques temps avec Ariel Dombal et Stéphane Bern. Là, on voit aussi le fait du métissage. Pour le projet Vivre Ensemble qui lutte contre le racisme. Vous en avez souffert, vous, du racisme, Kamel Wally?
Pas vraiment. Juste une fois, mon premier spectacle, d'ailleurs, qui était, je fête mes 20 ans, aux Folies Bergères, où on voulait pas mettre mon nom sur l'affiche. Et donc on vient me voir, il y avait une fille avec qui je travaillais, Marie-Laure Philippon, qui vient me voir, qui me dit « Écoute, quand même, je vais être très embêté, ils veulent pas mettre ton nom sur l'affiche. » Je dis « Ah bon, et pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'ils disent que Kamel Wally, c'est pas vendeur. » Je dis « Bon, bah c'est pas grave, je m'en vais alors. » Et donc j'étais prêt à partir. Et puis le directeur me dit « Non, 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 t'inquiète, bon, c'est bon, je vais voir avec la propriétaire, on va voir ce qu'on peut faire. » Je dis « Non, de toute façon, je m'en vais sinon. Oui. » C'était pas une question d'avoir mon nom sur l'affiche, mais c'était une question qu'on veuille pas le mettre parce que c'était un nom arabe d'origine maghrébine. Et donc du coup, et je dirais même Kabyle, parce que c'est différent, si on veut me faire taper par les doigts dans les doigts là, dans les mains. Et du coup, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit ok, on va remettre ton nom. Plus petit, ça n'existe pas, mais il était quand même présent. Et j'ai fait ce spectacle et je me suis vraiment amusé. Puis d'ailleurs, c'est aussi grâce à ce spectacle qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé par la suite.
Vous restez avec nous, Kamel Wally et Karel Prugnot. Tout de suite, le questionnaire 100% France Inter, il est pour vous, Kamel.
Et maintenant, le questionnaire.
Je tiens au passage à préciser que vous n'avez pas souhaité avoir la liste des questions par avance.
Rendez-vous.
Vous savez, ça c'est normal, mais tellement rare aujourd'hui.
Alors, le questionnaire 100% France Inter, ce sont des questions déjà posées par des stars de la chaîne à d'autres invités. Comme on est écolo, on les recycle. Les questions, pas les réponses. Donc, trois questionnaires, vous choisissez le vôtre. Incroyable talent, ou Starac, ou French Cancan. Kamel Wally, lequel?
Bon, Starac, on en a
très bien
parlé.
La première, une question de Philippe Collin.
Est-ce que vous aviez ce qu'on peut appeler des idoles sportives, gamin?
Gamin?
Des idoles sportives ou autres?
Non, ben là, j'étais pas gamin, mais moi, le summum, c'est quand même Zidane. Et puis sinon, peut-être gamin, c'est toujours Platini ou choses comme ça.
Et le foot alors?
Ouais,
vous pratiquiez?
Oui, à Saint-Denis, on aime tous le foot, hein, c'est sûr.
Vous étiez sur le terrain aussi?
J'avais plein de grands frères.
Vous étiez sur le terrain?
Non, moi
j'étais oui. Toujours sur la touche. Hein. Ah, vous avez pris en dernier.
Non, mais moi
sur la touche.
Ouais, non, moi
ce qui m'allait très bien. J'adorais ça.
Non, moi j'aimais bien ça. Mais après, mon petit frère par exemple était très très fort comparativement à moi. Donc c'était plutôt lui qui jouait.
Deuxième question, Antoine Decaune.
Les ados disent souvent je suis au bout de ma life. Alors c'est curieux d'être à la fin de sa vie, hein, à 16 ans, mais question à la Mireille Dumas, étiez-vous ce genre d'ado?
Ah non, mais au contraire, je suis curieux de tout, j'ai envie de tout découvrir, et ado, et encore maintenant, et tous les jours, je me dis que j'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire.
Il n'y a pas eu de révolte adolescente?
Alors, pas du tout. Mais parce que j'avais aussi, mon échappatoire à moi, c'était la danse, donc je savais ce que je voulais faire,
Crise d'adolescence pour vous, Karel Prugnot?
Ben non, pareil.
Non plus, hein, j'aurais non imaginé plus. Qu'à 20 ans.
Et ben non, justement.
C'est pas rebelle, vous.
C'est maintenant que je fais ma crise. Ah ouais.
Et enfin, une troisième question, celle d'Edouard Baird.
Vous avez tweeté récemment. Vous avez Instagrammé, LinkedIné. Quels sont vos vices?
Kamel Wally.
Mais moi, je suis pas très, 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 malheureusement, et je me fais engueuler d'ailleurs par tous les gens avec qui je bosse, réseaux sociaux et tout ça, j'y pense pas, c'est pas quelque chose d'immédiat.
Pourtant, ça fait partie aujourd'hui de la communication d'un artiste, ouais.
On est bien d'accord. Donc voilà pourquoi je me fais engueuler tout le temps. Mais non, un vice?
Ouais. Quel serait le vice de Kamel Wally?
Moi, je suis pas vraiment de
vous
vice.
Bourrez la gueule?
Mais non, je bois pas d'alcool, j'en ai même jamais bu. C'est pas très drôle. Hein.
Vous mangez de la drogue?
Et non, j'ai même jamais fumé une cigarette. C'est relou, hein. Il est chiant, le mec. Non, peut-être quoi? Je sais pas.
On le dira hors antenne.
D'accord.
Et on le mettra sur les réseaux sociaux. Vous restez avec nous. Donc, l'oiseau paradis, c'est à partir du 2 mai au paradis latin. On va parler acrobatie, on va parler catch, on l'a déjà fait. On va parler théâtre aussi maintenant avec vous, Karel Prugnot.
Someone will come and replace me.
don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop. Please don't stop, the video stop.
One love, you're headed on your own love. The time not to be there. She says she won't care. Now you have something. Before you had nothing. I don't want to care. But your love's real. And it's an odd thing. I cannot be a whole world. Just sit on the fake grass. And I won't believe that. And I never had enough. Someone will come and replace me. How can you replace me? Why it's true.
Beat 54, un extrait de Forever, le dernier album du collectif anglais Jungle. Allez, on garde le rythme tout de suite avec vous, Karel Prugno.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Il y a le souvenir qui arrive.
Oui, je l'ai aussi.
Le souvenir. Moi, Noélie, moitié petite, je jure que je marcherai sur les toits. Je jure que si je n'y arrive pas, je me lancerai dans le vide.
Moi, Léonie, moitié grande, je jure que j'apprendrai tous les mots du dictionnaire par cœur. Je jure que si je n'y arrive pas, je mourrai.
C'est dit, voilà le programme de vie des jumelles Léonie et Noélie que vous mettez en scène, Karel Prugno. À la base, c'est un texte de Nathalie Papin, elle-même mère de jumelles, c'est ça ? Concernée par la jumélité ?
Sa maman était jumelle et effectivement, c'est l'histoire de sa mère, en partie, qui avait une sœur jumelle, qui était issue d'une famille très très populaire, où il y avait 8 enfants, et elles sont arrivées, c'était les dernières, et effectivement, il y avait très très peu d'argent. Elles alternaient les jours d'école, comme il n'y avait plus assez d'argent pour acheter 2 paires de chaussures, 2 cartables, du coup, elles allaient à l'école une semaine sur deux, en fait. Donc du coup, c'est un peu l'histoire de ces deux jeunes filles qui vont réussir tout doucement à
prendre leur destin en main. Dans la pièce, les filles ont 16 ans, issues d'un milieu social modeste. Signe particulier de Noélie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Alors Noélie, elle s'est donné le défi de voler, enfin d'errer sur les toits, de sauter d'un toit à l'autre, d'avoir, enfin c'est la liberté à travers le corps, comme s'il y avait accès. Le toit, c'est un peu être au-dessus de la société, et c'est comme plonger dans le ciel, comme un lieu de tous les possibles.
Et le signe particulier de Léonie ?
Alors, Léonie, elle s'est donné le défi d'apprendre le dictionnaire par cœur. Comme si à travers tous ces mots du dictionnaire, elle pouvait contenir le monde entier entre ses mains, quelque part.
Les deux filles sont sur les toits. Deux pyromanes face au spectacle d'une ville en feu. Comment elles en sont arrivées là ?
Eh bien, effectivement, je pense que ce sont deux jeunes filles qui ont beaucoup souffert. D'ailleurs, il y a deux espaces-temps dans le spectacle. Il y a le temps présent de ces deux jeunes filles en cavale qui se réfugient sur les toits. Et puis, il y a des instants de souvenirs qui sont pas très joyeux, incarnés par tous les instants de souvenirs sont incarnés par des figures du théâtre que j'aime beaucoup et que les jeunes ne connaissent pas, notamment Denis Lavant ou Claire Nebout ou Yann Colette, Bernard Ménez, et qui incarnent que des figures de l'autorité assez grotesques, assez violentes. Donc Yann Colette devient un juge effrayant qui leur annonce à un moment donné qu'elles vont être séparées de leur mère et mises dans un foyer. La mère qui justement veut forcer les filles à aller à l'école, mais qui les deux filles veulent y aller ensemble et elle les interdit. Il y a le vol du dictionnaire, parce qu'elles vont voler des dictionnaires. Elles volent pas des bonbons à l'école, dans les magasins, ni des jouets. Elles volent des dictionnaires. Donc voilà, que des souvenirs comme ça.
Bernard Ménez en professeur.
Et en professeur, Bernard Ménez, effectivement.
Elles sont pas seules sur le plateau. Il y a deux acrobates, ou plutôt des free run. Vous expliquez ce que c'est? Vous savez ce que c'est, vous, des free run?
Ouais, du coup, je sais Camille ce que Wally. C'est.
Quoi,
des gens qui font du parcours.
Alors, pour expliquer oui. Un peu plus, qui font du parcours, c'est quoi?
Ceux qui font du parcours, c'est ceux qui sautent d'un endroit à un autre, mais en prenant des risques incroyables.
Style des Yamakasi,
en fait,
ou pas?
C'est des Yamakasi, ouais. C'est du risque contrôlé, parce qu'ils savent ce qu'ils font.
Karel Pugnot.
Mais effectivement, ce sont des acrobates assez fabuleux, des extra-humains, on pourrait dire, qui risquent leur vie en étant libres et en errant, en sautant d'un toit à un autre. Ils rentrent de façon clandestine dans les immeubles et toute leur liberté, c'est comme des chats en fait. Ils s'adaptent avec l'espace et le milieu dans lequel ils sont. Ce que je trouve assez beau pour moi, c'est que c'est un symbole vraiment de liberté. C'est-à-dire que quand on fait du cirque, on a besoin de son trapèze, on a besoin de sa corde, on a toujours besoin de son outil. Là, l'outil, c'est ce qui est là. Par exemple, on serait ici dans le studio, on ferait des trucs sur les chaises, entre les micros. C'est-à-dire que c'est un lieu de tous les possibles. Je trouve que c'est une belle leçon à avoir aussi.
Vous les avez trouvés où?
Eh bien, donc Simon Noguera, je l'ai rencontré en faisant un festival de performance à la scène nationale de Dieppe qui s'appelait Tous Azimuts. Et ça a été le héros d'une auteure que j'aime beaucoup, qui écrit des polars, qui s'appelle Ingrid Astier, dans son avant-dernier roman qui s'appelle Haute Voltige. D'ailleurs, hier, on faisait une lecture aux éditions des Arènes de son dernier roman qui s'appelle La Vague, qui est assez, assez beau. Donc, je lisais ces textes d'ailleurs. Et donc j'ai rencontré Simon comme ça, j'ai trouvé fabuleux. Déjà, c'est une personne magnifique. Et ce que je trouve très beau, c'est son rapport à l'instinct. Je trouve qu'on est dans une société où on nous pousse à tuer notre instinct. On est toujours derrière nos écrans, on est conditionné par faut être comme ci, faut être comme ça, faut penser faut comme ci, comme ça. Et en fait, je trouve que eux, au contraire, ils poussent leur instinct à l'exergue. C'est même s'ils mettent un pied pas au bon endroit, ils meurent. Et nous, c'est la même chose. Sauf qu'on tombe pas d'un immeuble, on peut rester mort, mais vivant. Et je trouve qu'il y a rien de pire. Et je trouve qu'il faut s'écouter.
Il y a eu beaucoup d'obstacles dans votre parcours, Karel Pugnot. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que quand même.
Non, moi, je fais du saut de haie. J'adore les obstacles.
Vous faites du saut de haie?
Ah ouais, le défi, c'est de sauter par-dessus.
Il y a eu quelques réticences dans votre parcours, dans des gens qui ont essayé, pas tenté de vous arrêter, mais qui ont été dubitatifs quant à ce que vous proposiez.
C'est vrai que malgré tout, je peux faire des formes très radicales. Là, c'est un jeune public, on va dire, ou un JPTP,
un jeune public.
Tout public. Ouais. Mais effectivement, je peux avoir des formes très très radicales qui vont dans des sentiers qui sont peut-être pas les sentiers qui vont vers des zones un peu de l'individu ou de l'humain qu'on a tendance des fois à vouloir refouler, qui dans une société très judéo-chrétienne peuvent déranger. Effectivement.
Vous avez travaillé sur la pornographie, je crois. Ouais.
Beaucoup, j'ai travaillé sur l'imaginaire érotique japonais. J'aime bien travailler aussi sur tous les stéréotypes. Du féminin poussé à l'exergue. J'ai fait du téléphone rose aussi. Donc pour moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, mes parents n'avaient pas spécialement d'argent pour m'aider. Je faisais des études de droit en même temps. Fallait payer mes cours. Et donc la nuit, fallait bien que je bosse pour pouvoir payer.
Par exemple, je peux vous appeler là?
Mais oui. c'est chaud ce soir.
Moi, j'ai une question. Je peux me permettre?
Bien sûr, allez-y.
Est-ce que parce que là, j'entends, vous avez 150 millions de projets. Est-ce que généralement, ils partent de vous? Ou alors, est-ce qu'on vous appelle pour vous mettre en scène sur des projets?
Eh bien, les deux.
Ouais.
En fait, il y a des projets qui partent totalement de moi. Par exemple, le spectacle qu'on a fait au Cirque électrique autour de l'imaginaire érotique japonais. Par exemple, c'est vraiment quelque chose... J'ai fait une rencontre avec un champion du monde de yo-yo qui s'appelait Yukihiro Suzuki. J'avais rencontré à l'École nationale du cirque à Chalon. Un petit japonais, mais fabuleux, incroyable, qui faisait du yo-yo, mais comme un fou. Et il m'a plongé dans tout le monde, tout l'univers du Japon, que c'était complètement dingue. Et donc là, du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc là-dessus. Je trouve que les Japonais, ils sont une société très, très, très cadrée, très normée.
Oui.
Mais dès que la porte s'ouvre, dans un univers complètement, exactement, ça gicle bien, un univers complètement débridé, fou, et donc voilà, des dolleurs, des hommes poupées, voilà. Donc là, c'est, par exemple, c'est des projets qui viennent de moi, mais en revanche, par exemple, Nathalie Papin, elle, pour Léonie Noëlly, elle est venue me chercher, elle a vu un spectacle que j'ai mis en scène, elle cherchait un ou une metteur en scène pour mettre ce texte-là, qui est un peu l'histoire de sa vie. Elle a mis 10 ans pour écrire ce texte. Et donc, du coup, là, elle est venue me chercher. Marie Nimier, j'ai beaucoup travaillé avec elle, qui est une romancière. Elle est venue me chercher également. Donc, en fait, j'aime bien répondre à des commandes, parce que je trouve ça très excitant. Ça nous permet d'aller vers des sentiers dans lesquels on n'irait pas spécialement. J'aime bien faire des rencontres. Travailler, par exemple, avec Bruno Verjus, un grand chef cuisinier. Travailler avec des gens qui sont pas spécialement du théâtre. Moi, ce que j'aime bien, c'est mélanger des genres, faire des chocs de culture. Ce que vous faites. Vous aussi également. Ouais. Et ça, je trouve ça excitant parce que je trouve que ça touche des publics très différents. Pareil, mettre Bernard Ménez avec d'un seul coup une contorsionniste à poil sur lequel on va manger sur son corps. Je trouve ça génial. D'un seul coup, le petit pêcheur qui est là, qui veut son autographe pour Bernard Ménez, d'un seul coup va être mis en danger par ces performeuses-là. Mais le roi de la performance, qui est un peu snob, d'un seul coup, ben, il va revisiter, relire Bernard Ménez différemment aussi. Qu'on a des fois tendance à enfermer dans le monde du boulevard ou du burlesque. Alors c'est un comédien fabuleux.
Été une des figures d'un cinéma d'auteur français.
Rosier, ouais. C'est un acteur fabuleux et une très belle personne également aussi. Et donc je trouve que ce que j'aime, c'est le problème, c'est que nous on est dans des clivages où on nous met dans une boîte, on est la société de la boîte quoi. Et je trouve qu'au contraire, faut ouvrir ça et être libre. Au contraire, c'est ça qui me plaît en fait.
Quand vous faisiez du spectacle de rue, c'était quel univers que vous développiez ?
Alors là, j'ai commencé vraiment en prenant pour Esmeralda, vraiment le truc très premier. Je mettais des grandes robes, j'allais dans la rue, il y avait des percussions, on mettait le chapeau, et puis j'en sais comme une folle. Moi, c'était vraiment la liberté, je faisais n'importe quoi, mais j'en sais comme une folle, et ça, j'adorais ça.
Ça marchait ?
Après, oh bah oui, mais oui. Enfin, ça marchait, on avait toujours le chapeau plein, on va dire. Mais c'était surtout très joyeux. Et pour moi, justement, c'était passer sur cette grande route et c'était un lien à la liberté.
Et alors, à quel moment vous êtes devenu professionnel sans passer par une école? Parce que ça, c'était important. J'ai pu lire dans un portrait que j'ai lu de vous. Vous ne vouliez pas passer par une école.
Alors, j'ai fait quand même une école qui est très atypique et qui m'a beaucoup aidée. Ça s'appelle le GEC. C'est le compagnonnage. Et qui est une école très singulière parce qu'on est employé comme en contrat de qualification. C'est-à-dire qu'on fait partie de la vie intégrante. On est comme des apprentis. Comédien. On fait partie de la vie intégrante de compagnie. Donc l'idée du comédien, de l'interprète, c'est quand même de s'adapter. Et donc du coup, on voyage dans des univers très différents. Et en même temps, on avait des stages qui regroupaient ces 12 apprentis acteurs qui étaient là. Et donc ça m'a beaucoup aidée. Et en plus, on était payés. Donc moi, d'un seul coup, ça me permettait aussi de ne plus bosser en plus pour payer mes cours. Donc c'était génial. Et après, on avait aussi la possibilité de présenter nos propres formes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la mise en scène. Et puis du coup, tout doucement... C'est arrivé. Et puis j'ai rencontré aussi un auteur fabuleux qui s'appelle Eugène Durif.
Eugène Durif,
je travaille toujours d'ailleurs.
Avec Eugène Durif, je sais, vous êtes associé.
Ah oui.
À Eugène Durif. Léonie et Noélie, c'est en tournée le 30 et 31 mars à Nantes, festival Petits et Grands. Le 1er avril, vous restez à Nantes, mais là, ça sera au Grand T. Vous restez avec nous tous les deux. Merci Karel Prugnot, merci Kamel Wally. Tout de suite, c'est la dernière partie de la première partie du NRV avec Soro Solo.
Vous pourriez mettre un disque ?
Oui.
Rendez-vous ?
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je vais demander des nouvelles de celui.
Alors, Soro Solo, on part du côté de Montreuil, c'est ça, hein, pour la 8e édition du festival Rares Talents. Il a été créé par Hilaire Panda. C'était qui, Hilaire Panda?
Alors, Hilaire Panda, c'est un excellent bassiste d'origine camerounaise. Et pour ne citer que, par exemple, de Salif Keita à Cyril Atef ou Magic Malik, en passant par Mori Kanté ou encore l'Afrocell Sound System, il a partagé la scène avec de grandes figures de la scène musicale. Et son nom figure sur pas moins d'une centaine d'albums en tant que bassiste.
Alors, pourquoi il a créé ce festival,
Rares Talents? En 2012, il décide de créer le festival Rares Talents pour offrir une sorte de laboratoire de rencontres de musiques diverses et variées, des générations différentes et aussi des talents cachés dont on ne parle pas. Comme par exemple celui de ce duo Kodama composé de Kiala Ogawa et Thomas Ugenel.
Vous avez travaillé avec Salif Keita, c'est ça?
Ouais.
Et Manu Dibango,
Kamel Wally. Manu Dibango et Salif Keita. Ouais.
Comme quoi?
Comme chorégraphe et danseur.
Et donc chorégraphe et danseur.
Ça, c'est le grand écart. L'Afrique occidentale avec Salif Keita et l'Afrique centrale avec Manu Dibango.
Mais c'est le roi du grand écart.
Et là, on vient d'écouter un extrait de Black Cloud de Kodama. Et puis, bon, ce qu'il faut ajouter, Laurent, c'est que Kodaman, c'est un groupe qui a été créé à Paris et il est composé de l'afro-japonaise Kiala Ogawa et du français Thomas Ijnel. Et leur musique, c'est un cocktail de culture.
J'aime pas trop mettre Kodama dans un bloc, mais c'est vrai que l'acid jazz, c'est parce qu'en fait, on a quand même un bon public anglais. Et aussi, je suis une grande fan de son anglais, en fait, que ça soit le son de mixage, le traitement de voix, traitement de batterie. Et en fait, on a un côté très jungle dans la batterie. Il y a l'électro et très trans, en fait.
Alors Kodama, bien sûr, sera au festival Rare Talent. Quelle date ?
Eh bien, Kodama, on le retrouvera le jeudi 4 avril au Café La Pêche de Montreuil et c'est à 22h. Mais il faut aussi ajouter que les mélomanes pourront également découvrir des musiques d'Afrique de l'Ouest comme celle du Béninois Patrick Rufino avec son tempo vintage au Théâtre Berthelot et ce sera le vendredi 5 avril. C'est le comeback du Béninois Patrick Rufino. Il faut rappeler à nos auditeurs que du 30 au 7 avril, le festival Rare Talent propose à Montreuil une semaine de rencontres professionnelles, de découvertes de créations inédites et de musique de tous les horizons.
Merci Sorosoulon. On se retrouve mercredi prochain. Tout de suite, on se quitte pour cette première partie avec Brigitte Fontaine. En 2007, elle tirait sur la barbe à papa.
Moi, je ne vois jamais.
Quel âge, on ne sait pas, ce n'est qu'un
la barbe à papa de Brigitte Fontaine. Elle sera au Café de la Danse à Paris le 19 mai et le 17 juin. Et ça, ça ne se rate pas. Le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera après le journal et ce sera avec ça.
200 000 avortements par an, 200 000 migrants par an. Nous sommes à la veille d'un changement de peuplement que nous ne voulons pas.
Grand remplacement, info ou intox, le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.